Not prizes. No.
Welcome back from.
Chers amis, nous allons reprendre après cette pause, thé, café et autres. Nous allons reprendre notre examen des comités restants. Je pense que nous avons déjà bien avancé dans la discussion en ce qui concerne les quatre derniers comités. J'espère que nous pourrons néanmoins avancer plus rapidement encore, tout en veillant, bien entendu, à procéder à un examen critique des questions posées. Une fois encore, permettez-moi de donner la parole au secrétariat pour qu'il nous présente les autres comités. Page 11 et suivante de notre document. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il est une chose qui m'est venue à l'esprit lorsque l'on discutait du CCRVDF. Salma l'avait dit, en fait, les procédures ont été suivies. Tout a été soumis à examen critique et le Président a fourni des informations sur ces documents. Et malgré cela, certains textes sont coincés à l'étape 8. Donc le problème est différent. Permettez-moi de vous rappeler que nous avons constitué un groupe de travail électronique chargé de travailler sur les normes retenues au stade 8 au CCGP. Peut-être pourrions-nous nous en servir aussi ici pour l'avenir. Nous verrons. Merci. Cela étant dit, passons à présent aux autres comités. Nous en avons terminé des comités numériques. Nous en venons au comité du codex sur les graisses et les huiles. Il n'est pas possible de donner un nombre, un chiffre sur les normes. Ici, nous n'avons que 3 normes générales et 2 spécifiques. Le comité a poursuivi l'examen de ces textes pour intégrer ces normes et ajouter d'autres types d'huiles. Donc les travaux se poursuivent, comme dans d'autres domaines. Le comité avait utilisé un certain nombre de critères pour justifier ces nouveaux travaux, lesquels sont énoncés dans le document, page 12. Mais en ce qui concerne l'article 3.3 du plan stratégique, le comité était convenu que les informations demandées étaient à présent couvertes par le document de projet et l'examen critique. L'on explique aussi à quelle fréquence les documents ont été révisés, quelles sont les nouvelles huiles qui ont été incluses. La révision, dans certains cas, se poursuit en coordination avec le Conseil oléicole international afin de veiller à l'harmonisation entre les normes du Codex et la norme du COI. Y a-t-il autre chose ? Nous avons 2 experts du comité parmi nous aujourd'hui. S'ils souhaitent ajouter quelque chose, nous avons le secrétaire du comité, l'ancien président, me semble-t-il. S'ils le souhaitent, ils pourront compléter. Dans l'ensemble, ce comité ne pose pas de problème particulier. Il semble réussir à gérer sa charge de travail sur la base des indications découlant de l'examen critique et autres. Merci. Merci au secrétariat. Y a-t-il des réactions, des commentaires sur ce comité graisse et huile? Il est une chose qui apparaît très clairement en ce qui concerne la gestion des travaux. Une fois encore, l'on constate le recours au groupe de travail électronique entre les sessions. Et pendant les sessions, des groupes de travail aussi se réunissent. Peut-être devrions-nous voir comment cela fonctionne et si cette pratique ne pourrait pas être recommandée, notamment en ce qui concerne les groupes de travail qui se réunissent pendant les sessions. Y a-t-il des réactions ? Le membre pour l'Europe. Merci, Monsieur le Président. En effet, j'ai eu l'honneur de présider la dernière réunion de ce comité tenu au Royaume-Uni. L'expérience a été assez intéressante en ce qui concerne la procédure. Un certain nombre de questions étaient inscrites à l'ordre du jour du comité, questions épineuses et le recours au groupe de travail au sein du comité. En parallèle, ou dans le cadre de petites réunions de réflexion pour voir s'il était possible de dégager un consensus et de rapprocher les parties. C'est avéré utile, en ce sens que cela aura au moins permis d'exprimer toutes les préoccupations et de comprendre les positions des uns et des autres plus aisément qu'en plénière. Donc j'appuie le recours à ces groupes informels en dehors des plénières, lesquels viennent ensuite informer la plénière du fruit de leur réflexion. Le Président, je remercie le membre pour l'Europe. Y a-t-il d'autres réactions ? Si tel n'est pas le cas, nous prenons note de l'utilité de ces groupes de travail électroniques et des groupes de travail réunis en session, selon que de besoin, selon les comités. Cette pratique étant utile pour faire avancer les travaux et les normes. Comité suivant, comité du Codex sur le poisson et les produits de la pêche. La parole est au secrétariat.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le comité sur le poisson et les produits de la pêche, pour obtenir des chiffres relatifs à la vitesse des normes. Il est parfois difficile de calculer tout cela car il y a une réalisation en continu des codes d'usage avec l'inclusion de nouveaux éléments. Au cours des dernières années, des retards ont été observés concernant le progrès du travail, étant donné l'ordre du jour et le programme très chargé, et la difficulté de couvrir tous les éléments. Il y a eu un manque de consensus concernant la portée des normes et des codes d'usage, les dispositions liées à l'hygiène, et dans certains cas, les travaux se fondent sur les avis scientifiques de la FAO et de l'OMS, ainsi que sur les avis et recommandations que le comité du Codex sur l'hygiène alimentaire fournit en matière d'hygiène. Mais en gros, le travail était assez rapide et le progrès des travaux a rarement été ralenti au sein du comité par ces éléments. Le comité a également noté que l'examen de propositions de nouveaux travaux suit les critères régissant l'établissement des priorités tels que précisés dans le manuel de procédure. Il considère ces derniers adaptés pour le comité et ne voit pas de besoin d'établir des priorités ou des critères spécifiques. Merci.
Thank you, secretary.
Merci au secrétariat. Commentaire par rapport à ce comité, leur gestion du travail. Nous avons noté des difficultés sur la base du rapport. Il nous faut comprendre précisément comment aider à la résolution de ces difficultés. La FAO, s'il vous plaît.
Gracias.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais relever deux points qui pourraient être considérés comme de bonnes pratiques. Le premier, c'est l'interaction efficace entre ce comité et le comité d'hygiène des aliments pour ce qui est des aspects sanitaires. Une bonne communication a été établie et elle a impliqué la FAO et l'OMS pour ce qui est des avis scientifiques requis. Le travail effectué pour le comité d'hygiène des aliments a un lien avec les produits de la pêche, ce qui donne lieu à une interaction efficace. Merci.
Thank you, FAO.
Merci, la FAO. Nous notons qu'à la racine des difficultés se trouve dans le manque de lien entre les divers comités. Il faut qu'il y ait un lien plus fort entre le comité sur l'hygiène alimentaire et le comité sur le poisson et les produits de la pêche. Il y a un besoin d'avis scientifique par le biais de l'OMS et de la FAO. Et nous devons encourager l'harmonisation de leur gestion du travail au niveau des comités, des divers comités et des comités d'experts scientifiques de la FAO et de l'OMS. Le dernier paragraphe qui a été noté ici pourrait faire l'objet de commentaires car il y est dit que ce comité a fait remarquer que ces considérations de nouveaux travaux se basaient sur des critères régissant l'établissement de priorités de travail et qu'elles étaient adéquates. Et par conséquent, ce dernier n'utilise pas de critères propres pour prendre ses décisions ou fixer ses priorités. Des commentaires sur ce point ?
From this executive committee. I see no flags.
Pas de demande d'intervention. Ah, si. Le membre pour l'Europe. J'espère ne pas répéter la même chose qui a déjà été dite. Donc, vous avez attiré notre attention sur ce paragraphe et je crois que c'est une question de bonne gestion. Tout comité du Codex devrait disposer d'un mécanisme de fixation des priorités ou de programme de gestion. Cela va sans dire. Mais dans ce cas, évidemment, il est nécessaire de le dire. Donc, c'est une question de bonne pratique. Je crois que tous les comités sont concernés. Comment mettre cela en pratique ? C'est peut-être un problème pour ce comité, car la chose est beaucoup plus complexe pour certains comités que pour d'autres. Toujours est-il que ce mécanisme doit être mis en place.
Thank you, member for you.
Merci aux membres pour l'Europe. Le membre pour le Pacifique Sud-Ouest. Je vois diverses demande divers signes, des signes différents chaque fois. Oui, c'est bien le membre pour le Pacifique Sud-Ouest. Oui, Monsieur le Président, je voudrais juste rajouter quelques éléments à ce qu'a dit le membre pour l'Europe. Et il se peut que je me trompe, mais il me semble que la charge de travail de ce comité changé avant que l'on demande l'établissement de méthodes de travail et d'établissement des priorités. Je ne sais pas si de nouvelles propositions de travail ont été soumises. Je crois que le travaux liés au code de d'usage est considérable, mais il serait peut-être bon de suggérer au comité sur le poisson que si à l'avenir ce dernier a de nouvelles propositions de travail, eh bien il faudrait peut-être qu'il envisage de nouveau d'avoir des critères propres pour prendre ses décisions, fixer ses priorités.
Secretary would like to clarify this point.
Le secrétariat voudrait apporter des clarifications. Oui, Monsieur le Président, merci. Comme l'ont indiqué les membres qui sont intervenus, ce code d'usage est un travail en cours et qui implique l'addition de nouvelles sections concernant par exemple l'aquaculture. Comme le collègue de l'AFL a mentionné, il y a une très bonne interaction entre le comité sur l'hygiène alimentaire et le comité sur le poisson. Néanmoins, des propositions ont été faites par rapport à des normes spécifiques au cours des dernières années. Récemment, il y avait la norme concernant les sources de poisson qui en est à l'étape 5. Et voilà pour les évolutions les plus récentes. Concernant le dernier paragraphe, il est vrai que le comité a ainsi répondu. Il s'agit d'un exercice de planification stratégique qui a eu lieu en 2008. Beaucoup de comités ont répondu que les critères actuels étaient adaptés à leur travail. Et dans le cas précédent, le comité sur les graisses et les huiles avait mis en place des critères spécifiques pour leurs normes. Et lorsque l'examen critique et le document de projet ont été adoptés, ils se sont penchés sur la situation et ont conclu qu'ils n'avaient pas besoin de critères spécifiques puisque ces derniers étaient pris en compte dans le document de projet. Il est vrai que pour certaines normes, c'est différent. Il y en a une particulièrement qui a retenu notre attention dans l'examen critique qui présentait des difficultés par rapport à l'établissement de son étendue, de sa portée. Et elle a fait l'objet de rencontres tous les 2 ans. Mais nous avançons vers un achèvement du code en soi qui peut-être soulagera la charge de travail de ce comité qui parfois est très lourde. Un autre élément qui n'est pas indiqué ici a trait à la gestion du travail d'un point de vue plus pratique et qui consistait à organiser 2 sessions du comité durant 6 jours au lieu de 5 jours. C'était une possibilité. Il y avait également la possibilité de groupes de travail avant la session. Voilà pour expliquer. Je voulais juste rajouter un élément à ce qui a été dit par ma collègue de la FAO. Il existe une question qui vient de se faire jour, qui est liée aux toxines. Le comité au niveau du Codex a demandé une consultation d'experts spécifiques puisqu'il s'agissait d'un thème particulier qui ne se trouvait pas au niveau du GEFRA ou JAMRA. Il fallait poser des questions claires aux personnes en charge de l'évaluation des risques, ce qui a permis d'obtenir de très bons résultats. Le travail de consultation a été observé par le comité, ce qui a donné lieu à l'élaboration de normes liées au mollusque bivalve. Donc voilà un autre exemple d'une consultation très spécifique qui a vraiment répondu aux demandes du comité et qui a donné lieu à une très bonne interaction entre les gestionnaires des risques et les évaluateurs de risques. Merci, Madame la secrétaire. Cela répond aux préoccupations qui ont été soulevées par cette section 3.2. Pouvons-nous passer maintenant à la section 3.3 ? Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais juste dire que pour le poisson et les produits de la pêche, les retards qui étaient perçus n'étaient pas liés à la sécurité, mais plutôt à des définitions. On a parlé de certains cas qu'il était très difficile de définir. Donc, ce n'était pas vraiment un problème de gestion du travail ou d'interaction avec d'autres comités dans certains cas. Nous leur avons demandé s'ils avaient besoin de critères de travail spécifiques et à l'époque, ils nous avaient répondu. Et cette activité est maintenant achevée, donc je ne sais pas si c'est le bon moment pour leur reposer la question. Pour ce qui est du comité sur l'hygiène alimentaire, ce dernier se réunit chaque année. La plupart des comités saisissent l'occasion d'organiser des groupes de travail entre les sessions et tous les comités auxquels j'ai assisté utilisent les techniques à leur disposition ou même les pauses café dont ils se servent pour la rédaction de textes qui ne sont pas disponibles pendant le comité. Le travail au sein du comité sur l'hygiène alimentaire s'est beaucoup développé et utilise un processus par le biais duquel le travail est réalisé pour mieux gérer sa charge de travail, ce qui a permis d'augmenter la vitesse de préparation de certains documents. Et récemment, des principes et procédures d'analyse des risques appliqués par le comité du Codex sur l'hygiène alimentaire ont été élaborés. Ce sont des processus assez récents qui sont en cours de mise en œuvre au sein du comité. Si vous regardez le tableau ainsi que les résultats, vous pouvez voir qu'un certain nombre de textes ont pris plus de temps que la normale, que la moyenne. Parfois 3 ans de plus que la normale. Et les raisons se trouvent dans la complexité des textes à élaborer et parfois l'absence d'un processus structuré à l'époque de leur élaboration. Par exemple, les principes et directives pour les évaluations de risques microbiologiques. Il s'agissait d'un document extrêmement complexe puisqu'il présentait une méthode de travail tout à fait novatrice et faisait partie d'autres travaux qui ont été mis en œuvre plus tard. Je vois que la FAO a quelque chose à dire. Merci, Monsieur le Président. Pour compléter les informations qui ont été présentées par le secrétariat du Codex, je voudrais dire que l'interaction entre ce comité et la FAO et l'OMS est peut-être un exemple de l'évolution qu'il devrait y avoir dans ce domaine pour l'amélioration du travail du Codex. Il y a 10 ans, le Codex a demandé la mise en place de ce qu'on appelait réunion de l'OE d'experts sur l'évaluation de risques microbiens pour accélérer les travaux du comité. En 2000, et cette année, cela fera 10 ans que ce travail est en cours. Ce travail se fonde sur une interaction continue entre les évaluateurs de risque au niveau international avec l'OMS, la FAO et le comité. Et le travail effectué a appelé des membres de GEMRA à participer à des discussions sur les priorités du travail du comité, dans lesquelles le comité établit ses priorités et identifie clairement quels sont ses besoins en avis scientifique. Le comité, au cours de ces discussions, prépare des mandats spécifiques qui sont ensuite soumis à la FAO et à l'OMS. Ensuite, il établit des calendriers concernant les besoins de ces avis scientifiques, ce qui nous permet de mieux planifier le travail. De même, cet effort a évolué puisque tout d'abord, on nous a demandé de préparer une série de guides pour l'élaboration et de l'analyse des risques de façon à augmenter les informations et les principes générés par le Codex. Ensuite, la deuxième demande visait à réaliser des évaluations des risques dont les résultats au départ n'ont pas été utilisés comme ils le devaient. parce que nous avons appris avec le temps à utiliser ces résultats. Et il fallait travailler de façon conjointe avec les membres du Codex à l'élaboration d'outils de base permettant aux intéressés à former ou à organiser des séminaires pour expliquer qu'est-ce que l'évaluation des risques microbiens, quels sont les résultats à obtenir, quels sont les types d'informations utilisées. Au cours de toutes ces années, nous avons publié 19 documents techniques. Nous avons préparé par exemple ce feuillet qui est disponible. Vous pouvez le trouver au fond de la salle. Et nous avons dû travailler en coordination avec le comité et un autre point intéressant, le comité du Codex, au cours de ces discussions concernant les priorités, nous a dit qu'il était important d'avoir des guides, par exemple pour réduire la salmonelle chez les oiseaux. Mais il fallait disposer d'outils nous permettant d'évaluer l'utilité de ces guides du Codex et les interventions que nous allons effectuer à divers niveaux de la chaîne de production. Donc la GEMRA a dû collaborer avec le comité pour préparer ces outils. Par exemple, dans le camp d'Interbactex Sakasaki, à l'heure actuelle, nous travaillons à la mise en place d'un outil d'évaluation pour la salmonelle et d'autres bactéries chez les oiseaux. Et en septembre, une évaluation sera faite concernant un outil permettant d'évaluer les mesures mises en œuvre dans ce cadre. Donc pour résumer, Monsieur le Président, je crois qu'en plus de cette réunion d'experts, je crois qu'il est utile d'informer le comité que la GEMRA a également diversifié ses conseils apportés au comité, car il ne s'agit pas seulement de répondre ou de réaliser des évaluations de risque. Nous devons répondre à des requêtes spécifiques et travailler en coordination avec le comité sur l'hygiène et définir nos priorités. Par exemple, on nous a demandé de réaliser une évaluation des risques sur les micro-organismes et les produits végétaux pour déterminer quelles seraient les priorités de façon à ce que la gamme de pathogènes et de produits végétaux sont un thème très large. Donc, sur cette base, on pouvait décider ou non de commencer un travail dans ce domaine. Voilà pourquoi l'avis scientifique de la FAO était nécessaire. Il fallait déterminer si ce thème allait être discuté dans le cadre des activités du comité sur l'hygiène alimentaire. Et par la suite, ce comité a pris des mesures d'apprentissage commun dans lequel nous jouons un rôle, puisque dans certains cas, il était difficile d'obtenir des résultats rapides, mais nous apprenons tous ensemble en cours de route. Merci.
Thank you, FAO.
Merci à la FAO. Nous prenons note des résultats de ces discussions, à savoir la très bonne interaction du comité avec les autres partenaires, en particulier la FAO et l'OMS. Pour ce qui est de l'obtention des avis scientifiques, à temps. Et je crois que cela devrait encourager tous les comités qui ont besoin d'avis scientifiques de la FAO et de l'OMS. Pas de demande d'intervention supplémentaire. Pouvons-nous passer au comité du Codex sur les systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires? Un nom très long. Merci. C'est un nom très long, mais mon intervention ne sera pas longue. Je me demandais même si je n'allais pas directement donner la parole à la membre de Pacifique Sud-Ouest, mais elle me fait non de la tête. Ce comité a la chance de ne pas avoir une charge de travail trop importante. En général, il n'a que deux ou trois projets en cours. La plupart des textes ont fait l'objet d'un processus qui impliquait trois sessions du comité. La première consiste à proposer du nouveau travail à la commission. Le deuxième, la portée, la structure du document. Et la troisième, la finalisation du document et sa soumission à la commission en tant qu'étape à l'étape 5-8. En général, il y avait deux réunions de groupe de travail entre sessions. Donc le comité se réunit chaque année et des groupes de travail ont lieu entre les sessions. Ces groupes de travail sont assez lourds, ils connaissent une participation très importante. C'est presque un mini-comité. L'interprétation est toujours assurée. Et tout cela a permis une progression rapide du travail. Comme sa charge de travail est raisonnable et vu la rapidité avec laquelle des textes ont été élaborés, il a été convenu qu'il était inutile d'élaborer des critères spécifiques pour la prise de décision et l'établissement de priorités, puisque ces derniers étaient déjà inclus dans la procédure. Merci beaucoup.
Thank you, secretary.
Merci au secrétaire. Des commentaires concernant CCFIX. Pas de demande d'intervention. Si le comité est satisfait du travail du CCFIX, nous passons au comité sur l'étiquetage des denrées alimentaires. Merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi la salle s'est agitée dès qu'on a mentionné le comité sur l'étiquetage des denrées alimentaires. Comme on l'a vu plus avant, ce comité, en plus de son travail sur les textes d'étiquetage, est responsable de l'élaboration de directives concernant la production et la commercialisation des aliments issus de l'agriculture biologique. Voilà les deux parties du travail de ce comité. Pour ce qui est du travail sur l'étiquetage, les textes relatifs à l'étiquetage, le comité n'a pas jugé nécessaire de mettre en place des méthodes de gestion de travail. Ces propositions sont conformes aux procédures générales du manuel de procédure. Le travail peut commencer par des discussions pour plusieurs sessions. Et c'est quelque chose qui dérange un petit peu, qui gêne le calcul de la vitesse de progression des documents à certains points. À certains stades, le comité pourra peut-être se pencher sur la question, car bon, les textes, les documents de discussion peuvent être à l'ordre du jour pendant très longtemps au sein des comités, et cela utilise le temps du comité. Mais cela fonctionne sans même que le travail ait officiellement commencé. Il est parfois nécessaire que le comité se fasse une opinion, mais la rapidité de ces discussions devrait être prise en compte. C'est la procédure complète qui est utilisée en général, mais la procédure accélérée est utilisée deux fois, ce qui ne signifie pas spécialement, pas toujours, que le travail a lieu, se fait rapidement. L'omission des étapes 6 et 7 a eu lieu une seule fois. Les travaux sont renvoyés aux étapes 3 et 6 par le comité assez souvent, et par 4 fois, ils ont été renvoyés à la commission par le comité. Les réunions de groupe de travail physique ont été organisées avant la plupart des sessions, principalement pour travailler sur les directives concernant la production et la commercialisation des aliments issus de l'agriculture biologique. Des groupes de travail physique se sont réunis également 4 fois pour faire avancer les travaux relatifs à l'étiquetage des aliments MGGG. Des groupes de travail électroniques ont également été organisés. C'est ce comité qui, pour la première fois, va utiliser les services d'un animateur. La question de l'étiquetage MGGG a fait l'objet d'un débat pendant plus de 14 ans et aucun consensus n'a été établi. Les présidents qui ont été à la tête de ce comité se sont mis d'accord sur l'utilisation de ces méthodes et lors de sa 37e session, il a décidé d'utiliser les services d'un animateur pour réaliser des progrès sur cette question. En parallèle avec ce travail, la vitesse de progression du travail est en fait assez satisfaisante car elle est souvent assez bonne pour certaines procédures, le travail est plus lent. Au niveau national, une diversification des dispositions peut s'observer, ainsi qu'une augmentation des coûts. Je vais m'en tenir à cela.
Thank you, secretary.
Je remercie le secrétariat. Y a-t-il des réactions sur ce comité d'étiquetage des denrées alimentaires? Y a-t-il des réactions, des questions? Le membre pour le Pacifique Sud-Ouest a la parole. Merci, Monsieur le Président. Je pense que, en ce qui concerne les travaux futurs dans le domaine de l'étiquetage, il est important de noter qu'ici nous avons affaire à des questions différentes et qu'il est nécessaire de dégager un consensus en tenant compte de différents facteurs tels que les positions nationales différentes, les facteurs culturels différents qui impliquent parfois de grandes divergences entre les dispositions. Il est nécessaire aussi de reconnaître l'importance qu'il y a pour le consommateur de comprendre ce qui figure sur les étiquettes. L'on utilise actuellement des observations des données analytiques. Peut-être sera-t-il nécessaire à l'avenir de fonder les décisions du CCSL. Et je pense que nous devrons y revenir, tenir compte de toutes ces considérations et savoir qu'à l'avenir, des problèmes pourraient se poser dans ce domaine. Merci.
Any further comment?
Y a-t-il d'autres réactions? On a évoqué la complexité de ce sujet. Nous devons trouver des solutions. En tant que comité pour formuler des conseils sur la manière d'aller de l'avant et de faire progresser l'établissement des normes, nous avons pris note de la complexité du sujet, de la nécessité de tenir compte de ces difficultés pour préparer des textes définitifs. Avez-vous d'autres réactions? Le secrétariat. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Si j'ai bien compris, le membre du Pacifique Sud-Ouest, ce dont nous avons besoin lorsque nous nous lançons dans de nouvelles activités, lorsque l'on prépare les documents de projet, puisqu'il est question de la diversification des législations nationales, dans certains cas, nous devrons peut-être trouver davantage de contributions, dans d'autres, nous devrons simplement accepter cette différence entre les pays, lesquels pourraient mener le codex à ne pas adopter de normes. Mais sur la base des informations disponibles, il faudra voir s'il est possible de dégager un consensus. Merci. Merci au secrétaire pour ces remarques utiles. Pouvons-nous passer au comité suivant ? Comité du collègue sur les fruits et légumes frais. Le secrétariat a la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le comité du Codex sur les fruits et les légumes frais, chargé d'élaborer des normes à vocation mondiale et des textes apparentés en matière de fruits et de légumes frais. Il travaille en concertation avec le groupe de travail de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, CENUE, sur les normes de qualité agricole et en particulier avec sa section spéciale pour la normalisation des fruits et légumes frais, en vue de s'assurer que les textes soient harmonisés et suivent le même modèle et d'éviter les chevauchements d'activités. Honnêtement, dans ce domaine, tout ce qui est fait, en fait, représente un chevauchement d'activité puisque vous avez deux organisations qui travaillent sur des normes similaires. Comme je l'ai déjà dit, c'est aux États membres que revient la décision. Les États membres ont souhaité que les choses soient ainsi, donc le secrétariat ne peut rien faire si les États membres souhaitent que deux entités se chargent de ces questions. Alors, au sein de ce comité, généralement, ce qu'il se passe, c'est qu'une fois les travaux lancés, un processus d'alignement est suivi entre les textes du Codex qui prépare un avant-projet de texte, projet qui est progressivement aligné sur les textes pertinents CENU. Ce qui n'est pas simple parce que les textes, la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, évoluent aussi. Leur processus est bien plus simplifié que le nôtre. Ils n'ont pas d'examen critique et dès lors qu'un membre estime nécessaire de réviser la norme, alors il peut le faire à la CENU, ce qui entraîne des retards. Le comité avait établi une liste prioritaire, mais à la 15e session, il a été décidé de la laisser de côté et de travailler sur la base des critères gisant l'établissement des priorités de travaux applicables aux produits, tels que contenus dans le manuel de procédure. Alors, j'essaie de voir s'il y a autre chose. Dans certains cas, nous avons constaté que les normes pouvaient progresser assez rapidement, mais dès lors que cette coordination est nécessaire entre ces deux entités, qui figurent aussi dans le mandat du comité, donc le comité est tenu de respecter son mandat et de travailler en consultation, alors le processus prend beaucoup plus longtemps. Donc si pour un texte, il n'y a pas d'autres normes existantes, cela peut avancer assez vite. Dans d'autres cas, de 7 à 10 ans sont nécessaires. Nous avons avec nous le président de ce comité. Je ne sais pas si elle souhaite ajouter quelque chose. Merci. Merci au secrétariat. La présidente de ce comité a la parole. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi simplement de dire que cette liste de priorités a été annulée au motif que toutes les nouvelles activités devaient respecter l'examen critique et nous espérons ainsi que les activités futures ne prendront pas autant de temps. Parfois, le retard était dû non seulement à cette coordination nécessaire avec la CENUE, mais aussi du fait de questions régionales et économiques qui concernaient uniquement certaines régions, dans le cas notamment des oranges. En Europe, on tenait à la couleur orange. Au Brésil, la couleur est un peu différente et ce type de problème retarde considérablement les travaux. N'oublions pas que la CENUE est une entité régionale et non pas mondiale comme le Codex. Merci. Merci à la présidente de ce comité. Là encore, il s'agit d'un sujet complexe et nous constatons que des considérations géographiques entrent en ligne de compte pour déterminer certaines des caractéristiques des biens à l'examen. C'est là une difficulté supplémentaire qui se pose. Est-ce que tu aurais ce document en anglais qui est là-bas, s'il te plaît? La présidente nous a dit que la liste de priorités avait été abandonnée et que l'on suivait à présent de nouvelles règles qui devraient permettre d'aller de l'avant assez rapidement. Y a-t-il d'autres réactions?
Seeing none.
Si tel n'est pas le cas, je vous propose de passer à la section 3.7, comité de collecte sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, CCMAS. Le secrétariat a la parole. Merci beaucoup. Je dois admettre que je n'y connais rien du tout à ce comité. Mais nous avons avec nous le secrétaire de ce comité. Merci, Monsieur le Président. Bien souvent, l'on connaît l'existence de ce comité, mais l'on ne lit pas le rapport de ce comité. Alors, ce comité traite des questions générales relatives aux méthodes d'analyse et d'échantillonnage et travaille sur les méthodes spécifiques d'analyse et d'échantillonnage, en particulier l'adoption des méthodes soumises par les autres comités. Ça s'applique à d'autres comités aussi. L'adoption prenant un certain temps. Ça a été le cas aussi pour l'étiquetage des additifs et l'hygiène des aliments. Alors, l'on est en train d'élaborer des lignes directrices générales sur l'échantillonnage. Ça a pris un certain temps, étant donné la complexité du sujet. Alors, ce comité traite de quelques points, mais de points substantiels notamment. Le règlement des différents sur les résultats d'analyse. Différentes approches ont été adoptées. Les bases scientifiques évoluent. L'on se demande s'il faut retenir une approche uniquement scientifique ou une approche plus pratique. La discussion quant au fond se poursuit. Nous essayons notamment de régler des questions émergentes aux problématiques telles que l'incertitude de l'échantillonnage. Nous avons également des directives sur l'incertitude des mesures. Des dispositions ont été adoptées en 2004 qui sont actuellement à l'examen. Il s'agit de les réviser pour orienter davantage les pays membres. Donc, il s'agit de questions complexes en ce qui concerne la méthode de travail. Nous utilisons des critères généraux puisqu'il s'agit de travaux généraux. Examen critique, document de projet aussi, autant d'outils tout à fait utiles à l'avancement des travaux. Les demandes d'activités nouvelles ne sont pas nombreuses. Le comité n'est pas saisi d'énormément de questions, mais de questions importantes. En ce qui concerne les nouvelles activités envisagées concernent les critères de performance et la validation des méthodes de détection, d'identification, de quantification des séquences d'ADN spécifiques et de protéines spécifiques contenant les aliments proposées en 2008. Avant cela, nous avons évoqué les documents discussion. Le comité, avant de décider de se lancer de nouvelles activités, essaie de préciser la portée de ces nouvelles activités. En dépit de la complexité des questions traitées, et nous en avons déjà parlé, l'on a recouru à des groupes de travail électroniques. Un groupe a été coordonné par l'Argentine et un des coprésidents avec l'Allemagne et le Royaume-Uni qui ont également travaillé sur ce texte. Cette plateforme Internet a permis d'excellentes interactions entre les pays, les membres, les observateurs, ce qui a grandement facilité les travaux. Permettez-moi de dire qu'il s'agit d'un comité qui n'a pas tenu de réunion de groupe physique entre les sessions, mais les groupes de travail électroniques ont permis aux membres et observateurs de participer à la réflexion. Il n'y a donc pas de groupe de travail physique entre les sessions. Il y en a un qui se réunit avant la session. Il s'agit du groupe de travail pour l'approbation des méthodes d'analyse. Voilà pour la procédure générale. Autre chose qui n'est pas directement liée à notre discussion en ce qui concerne les questions liées à l'adoption. Le CCMAS a présenté un certain nombre de critères qui figurent dans le manuel et des recommandations qui sont adressées au comité du Codex pour essayer d'appliquer cette approche basée sur les critères plutôt que d'adopter de nombreuses méthodes. Alors les avis divergent parce qu'au fin de la mise en œuvre, vous avez besoin de méthodes spécifiques. Mais pour l'heure, à titre d'exemple, toutes les méthodes d'analyse relatives aux contaminants, notamment les métaux lourds, ont été examinées à l'aune de ces critères. Un certain nombre de critères seront également soumis à la commission pour ce qui est des eaux minérales. Les comités suivent les recommandations contenues dans le manuel de procédure en ce qui concerne l'inclusion de dispositions spécifiques, ce qui facilite aussi les travaux des comités généraux chargés d'adopter les textes. Vous avez aussi la liste des résultats obtenus. Certains textes ont été élaborés par d'autres organisations, ont été examinés par le comité, qui a dans certains cas porté des amendements directement liés au codex. Merci. Merci, madame. Alors, j'ai relevé trois questions. En ce qui concerne ce comité, d'une part, l'utilisation d'une plateforme électronique sur Internet qui a vu le jour et qui est utilisée par le CCMAS. Vous vous souviendrez peut-être qu'au début de la réunion, cette question avait été fort justement évoqué par notre présidente. Je pense que nous y reviendrons peut-être sous le point divers. Je me bornerai pour l'heure à dire que cet instrument s'avère utile et pourrait être recommandé à d'autres comités. Nous notons également l'utilisation des groupes de travail pré-session pour faire avancer les travaux. Nous encourageons vivement les autres comités qui envoient des documents à ce comité à suivre la ligne directrice existante. Il n'y a pas d'autres remarques sur le CCMAS. Nous passons rapidement au lait et aux produits laitiers. Merci, Monsieur le Président. Le comité du Codex sur le lait et les produits laitiers est un comité qui a achevé ses travaux. Il s'est réuni à 9 reprises depuis sa création en 1994. Il a travaillé sur la révision des normes individuelles pour les fromages, l'élaboration de normes sur le lait et les produits laitiers et l'élaboration d'autres textes. Le comité a également lancé le code d'usage en matière d'hygiène pour le lait et les produits laitiers. dont la version finale a été établie par le comité du Codex sur l'hygiène alimentaire. À ces 9 sessions, le comité a mené à bien ses travaux sur 35 textes. Il s'est mis d'accord sur des critères qui pourraient être élaborés à l'avenir pour fixer les priorités de ses travaux. En ce qui concerne la norme sur les fromages, le comité a suivi un critère relatif à l'élaboration et à la révocation d'une norme individuelle. Il a été proposé d'ajourner les travaux de ce comité, étant donné que toutes les activités envisagées ont été menées à bien. Nous pouvons dire aussi que ce comité travaille en étroite collaboration avec la Fédération internationale laitière, qui a beaucoup contribué à ces travaux. Fédération internationale de laiterie, pardon. Et voilà, je m'arrêterai là, étant donné que ce comité ne siège plus. Enfin, en tout cas, ne siégera bientôt plus. Je m'arrêterai là, merci. Merci au secrétariat. Y a-t-il des réactions ? Alors, nous ne savons pas encore si la commission acceptera la requête. Nous supposons pour l'instant que le comité n'est pas encore ajourné. S'il n'y a pas de demande de parole, nous prenons note du travail réalisé par ce comité sur le lait et les produits laitiers. Et nous attendrons que la commission entérine la requête relative à ce comité. Dernier comité, non des moindres, le comité sur les fruits et légumes transformés. Ah pardon, non, ce n'est pas le dernier. Pardonnez-moi, se reprend le président. Passons donc à ce comité. Merci beaucoup, monsieur le président. Alors, ce n'est ni le dernier ni le moindre de ces comités. Il est chargé d'élaborer des normes mondiales pour tous les types de fruits et légumes transformés, et notamment les fruits et légumes en conserve, séchés et surgelés. Vous imaginerez donc sa charge de travail. Il travaille conformément à la procédure d'élaboration des normes, codex et textes apparentés. Sa 19e session s'est tenue en mars 1998 après avoir été ajournée en 1986. Il était chargé de réviser toutes les normes individuelles et textes apparentés pour les fruits et légumes transformés, donc environ 50 documents du codex, l'idée étant de les simplifier et de leur donner un caractère plus général en combinant lorsque possible les groupes de produits similaires pour ainsi faciliter leur acceptation par les gouvernements. Les propositions de nouvelles activités relatives à la révision des normes existantes et de leurs textes apparentés sont soumises par le biais d'une lettre circulaire jointe au rapport de la session. Les critères régissant l'établissement des priorités de travaux applicables aux produits sont utilisés pour décider quels textes doivent être révisés en priorité. La plupart des normes et textes apparentés relatifs aux fruits et légumes transformés ont été élaborés dans les années 70 et 80. Et c'est pourquoi il est apparu nécessaire de les réviser, suivant cela la recommandation de la commission du Codex Alimentarius. À sa 24e session, le comité est convenu de ne pas élaborer d'autres critères précis pour l'établissement des priorités de travail, au motif que les critères d'établissement des priorités de travail contenus dans le manuel de procédure suffisaient à fixer les priorités des futurs travaux du comité. Il a en outre accepté de maintenir la fréquence actuelle des réunions, à savoir tous les 24 mois. En admettant la possibilité que les groupes de travail se réunissent avant les séances plénières, la fréquence, le comité a également décider d'utiliser davantage les groupes de travail électroniques, intersessions et physiques. entre et ou immédiatement avant les séances plénières, parce qu'elles avaient permis de faciliter l'examen des normes en plénière par le comité, notamment en identifiant en amont les principaux problèmes qui, n'ayant pu être tranchés par les groupes, devaient lui être soumis. À sa dernière session, afin d'aider le comité s'est doté d'un groupe de travail sur les priorités, qui s'est vu confier la tâche d'examiner les normes restantes pour les fruits et légumes en conserve séchés et surgelés. Une vingtaine de normes individuelles afin d'établir des priorités en matière de révision et d'adopter l'approche la plus efficace pour mener à bien cet examen. Un certain nombre de normes et de codes doivent encore être examinés, notamment pour les produits séchés. Par ailleurs, la commission a demandé d'envisager d'étendre le mandat du comité aux jus de fruits, de sorte que ce dernier puisse, après la suppression du groupe de travail, mener tous les travaux nécessaires sur les jus et nectars. Alors, si les travaux se poursuivent sur les produits séchés, se posera une question de coordination avec l'UNSE. S'agissant donc de ce comité, il a consacré énormément de temps sur des normes, à travailler sur des normes générales dont l'application est plus facile, ce qui a réduit le nombre de normes existantes, mais le nombre de normes du codex ne peut être utilisé pour juger de la qualité, puisqu'une norme générale vaut parfois mieux que 20 normes individuelles. Voilà, je m'arrêterai là pour l'instant. Merci. Merci au secrétariat pour ses commentaires utiles sur les travaux du comité fruits et légumes transformés.
I see no flags.
Il n'y a pas de demande de parole. Nous notons également que le comité recourt lui aussi au groupe de travail pour faciliter le processus d'établissement des normes. Je pense que cette méthode s'est avérée utile. Plusieurs comités a permis de faire avancer les travaux plus rapidement. Passons à présent au comité suivant, comité du Codex sur la nutrition et les aliments diététiques ou de régime 3.10 CCNFSDU. Le secrétariat a la parole. Merci, Monsieur le Président. Le CCNFSDU se réunit chaque année et travaille entre les sessions par le biais de groupes de travail électroniques et physiques. Généralement, on utilise toutes les étapes en partant de documents pour discussion. Dans certains cas, les documents sont repris. C'est sur les fibres que les travaux du comité ont duré le plus longtemps, fibres alimentaires. Ces 10 dernières années, le comité a mené à bien ses travaux sur 9 documents grâce aux interactions avec le comité sur l'étiquetage et avec ce comité étiquetage, le CCNFSDU a grandement facilité les travaux liés à la mise en œuvre de l'OMS sur l'activité physique et la santé. Je vois que la représentante de la FAO est prête à intervenir pour nous parler des avis scientifiques à ce comité. Une des questions qui pourrait avoir retardé une partie des travaux. Je donne la parole à la représentante de la FAO. Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement informer le comité exécutif que la FAO et l'OMS ont pris les dispositions pour instaurer un mécanisme semblable au GEMRA, à savoir des réunions d'experts FAO-OMS sur la nutrition pour appuyer les activités du comité lorsque celui-ci a besoin des avis scientifiques de ces organisations. Merci.
Thank you, FAO. That's, I think, good news.
Merci, c'est une bonne nouvelle pour le Codex et le comité. Puisque cela devrait permettre d'accélérer les travaux du comité du Codex sur la nutrition, les aliments diététiques ou de régime. Voilà qui nous amène au terme de notre analyse des approches de la gestion des travaux pour faciliter les travaux des différents comités du Codex. Nous avons pu mettre en lumière certaines des meilleures pratiques et mesures pouvant être utilisées par les différents comités pour faciliter l'avancement des textes et normes du Codex. Nous les recommanderons à la Commission et après leur adoption, nous attendrons des comités qu'ils mettent à profit ces meilleures pratiques pour faire avancer les travaux au sein du Codex. Comme je l'ai précédemment indiqué, cette discussion renvoyait l'activité 3.4 du plan stratégique. Notre comité pourra souhaiter se prononcer sur l'examen activité 3.5 parce que si vous regardez la note sous le point 3.5, il est dit que l'on ne peut pas passer l'activité 3.5 tant que l'activité 3.4 n'a pas été réglée. Mais j'en déduis que nous en avons terminé de l'activité 3.4 et par conséquent, nous devrions pouvoir passer à l'activité 3.5. Qu'en pense le comité avant que nous ne mettions un terme à l'examen de ce point de l'ordre du jour?
Secretary, please.
Le secrétariat a la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais simplement dire que, au regard de la discussion qui a eu lieu ce matin, je pense pouvoir dire que nous sommes déjà passés à l'activité 3.5 puisque nous avons formulé des recommandations aux différents comités. Ainsi donc, sur la base du rapport qui sera le fruit de notre discussion et qui contiendra les recommandations aux différents comités qui sera transmis à la Commission et qui, nous l'espérons, sera entériné par la Commission, eh bien, cette activité est déjà achevée puisque nous avons formulé des recommandations. Si vous reprenez l'activité 3.5, adopter des approches dont on sait qu'elles facilitent l'avancement des textes dans la procédure par étapes du Codex, au niveau des organes subsidiaires qui n'utilisent pas actuellement ces approches. Donc, nous avons formulé des recommandations Et nous allons à présent voir comment les comités vont réagir à l'avenir. Donc, nous avons mené à bien cette activité 3.5. Merci. Le président, merci beaucoup au secrétariat pour cet éclaircissement. Merci à tous pour la séance de ce matin. J'ai encore une demande de parole. Le vice-président Knut.
Thank you, Mr. Chairman.
Merci, Monsieur le Président. Une idée encore sur la manière de clore le débat sur ce projet. Le comité est d'accord sur le fait que l'on a démontré que le codex, bien souvent, travaille plus rapidement et plus efficace qu'on ne le pense souvent. Et nous en sommes très heureux. Il est important aussi de le dire au monde extérieur parce que bien souvent, des critiques sont adressées au codex. On estime qu'il est bien trop lent dans ses travaux. Ici, nous constatons qu'en dépit de quelques difficultés, il n'est parfait. Eh bien, nous travaillons assez bien. Et je suggère à votre comité de veiller à ce que cela soit dit clairement au reste du monde. Merci. Merci, Knut. Merci à tous pour la séance de ce matin. Je pense que nous avons, comme nous le devions, formuler des recommandations à l'adresse de la Commission. J'espère qu'elles seront adoptées. Je remercie également le secrétariat pour cet exercice. Ça n'a pas été simple, mais félicitations pour ce document. Et merci pour la discussion. Merci donc une fois encore pour la séance de ce matin. À moins qu'il n'y ait d'annonce, je vous propose de nous retrouver à 14h30. Bon appétit.